bouger le micro. Parfois je m'éteins. Ah, ici, allumé ici. Par contre. Père, nous sommes toujours reconnaissants, enfin presque toujours, quand nous avons l'occasion de nous pencher sur ta parole et d'apprendre de toi. Que tu me permettes, Seigneur, même si je connais assez bien ce matériel, d'être de nouveau ébloui par ta parole, par ton plan, par ta grâce, et que nous soyons de meilleurs disciples en conséquence de notre savoir, que nous sachions appliquer ce que nous savons. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. C'est toujours un résumé, donc on va le faire, pour nous rattraper, pour nous mettre au jour. La gloire de l'Éternel remplira toute la terre. C'est le verset clé de notre cours. Ça pourrait être le verset clé de la Bible. D'autres diraient non, c'est autre chose. Mais c'est sa gloire, c'est l'Éternel qui est au centre. Nous voulons être des chrétiens théocentrique, centré sur Dieu et pas anthropocentrique. Son grand projet intermédiaire, le grand projet ultime, c'est sa gloire qui remplit toute la terre par des hommes et des femmes qui aiment Dieu avant tout et qui s'aiment entre eux. Mais son projet intermédiaire, c'est de faire une nation qui sera l'instrument de rédemption, l'instrument de bénédiction. Donc Abraham, je te choisis et je ferai de tes descendants, en fait, les descendants d'Abraham, Isaac et de Jacob, une grande nation, grande spirituellement aussi. Et en conséquence, des gens de toutes les familles de la terre seront bénis. Que faut-il pour une nation? Trois choses. Des gens, un territoire, un gouvernement. On a les trois patriarches. Donc c'est, alors pour l'interrompre plus tard, je vais vous donner déjà les réponses, hein. C'est les patriarches, mot-clé patriarche. Et Jacob a 12 fils, mot-clé les 12 tribus, et Joseph, le 11e, devient un sauveur. C'est la 4e biographie dans Genèse, mais on ne l'appelle pas un patriarche, à moins d'être un patriarche de 2 tribus, mais c'est Abraham, Isaac et Jacob qui sont les 3 patriarches. Joseph descend en Égypte comme éclaireur, agent secret de Dieu, parce que c'est en Égypte qu'ils vont se multiplier. Jacob s'interroge, mais le Seigneur lui dit, c'est là que je ferai de toi une grande nation, c'est-à-dire en multiplication. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, une phrase qui revient une cinquantaine de fois dans la Bible, qui nous rappelle les promesses, ou la promesse, avec un P majuscule, qu'il a faite à Abraham, Isaac et Jacob, et il tient promesse. On va, dans la prochaine séance, Salomon va dire, Seigneur, tu as tenu promesse. Et sous titre de Dieu, il fait sortir son peuple du pays d'Égypte. D'abord en donnant il y a une étape qui s'appelle le chef libérateur, Moïse, et ensuite l'Exode, ça c'est les deux là, hein. C'est les deux, l'Exode, ou la sortie, voilà les mots-clés que vous rappellerez plus tard pour l'interrompre. Et le mot-clé ici c'est quoi? Ben, c'est loi. Et en fait c'est une forme de gouvernement. Dieu donne une manière d'organiser le peuple, civiquement, mais aussi spirituellement et religieusement. Ils sont censés entrer dans le pays. Mais malheureusement, il y a une autre étape, et peut-être dans vos notes, vous avez cette étape-là comme étant errance dans le désert, c'est ce que je l'appelais avant, mais maintenant je voudrais changer, c'est rébellion. Rébellion. C'est à la rébellion à Kadesh-Barnéa, nous ne pouvons pas prendre le pays que le Seigneur nous a promis, comme quoi le Seigneur ne peut pas nous le donner. Et c'est une incrédulité volontaire et une désobéissance volontaire. C'est à ce moment-là qu'on a la phrase « La gloire de l'Éternel remplira toute la terre ». Un moment de la rébellion. C'est comme si Dieu avait dit, vous ne voulez pas participer, d'accord, mais de toute façon, je vais accomplir mon plan. Et ils font une errance, donc, dans le désert pendant 38 années supplémentaires, 40 en tout. Enfin, ils entrent dans le pays sous Josué et ils divisent le pays en 12, schématiquement, pour les 12 tribus. C'est plus compliqué que ça, mais bon. Et puis, Josué prêche à la fin de sa vie 2 sermons absolument extraordinaire, chapitre 23 et 24. Choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Ce matin, j'ai lu une lettre de prière de quelqu'un avec AEE en Bretagne, Marie-Hélène. Elle a cité ce verset. Nous choisirons l'Éternel. Moi et ma famille, attachez-vous à l'Éternel pour lui obéir et veillez sur vos âmes. Absolument fantastique, ces sermons. la nation est censée devenir une grande nation, ils ont des gens, ils ont un gouvernement par tribu, et ils ont le territoire. Mais ce n'est pas une grande nation, parce qu'il y a désobéissance. Pendant 4 siècles, ils se révoltent contre Dieu, numéro 1, l'idolâtrie, ils imitent les nations païennes autour d'eux, le Seigneur permet une invasion ou même une oppression à l'intérieur du pays. Ils émettent des gémissements, des cris. Une seule fois, ils disent « Nous avons péché », mais normalement, ça devrait être une repentance. Et le Seigneur envoie un juge, ou plutôt un libérateur. Et pendant la vie du juge, grosso modo, les gens agissent correctement. À la mort du juge, ça recommence la rébellion contre Dieu. 10 à 14 fois, il y a 14 juges, mais au moins 10 fois, on a ce cycle. Et voilà le schéma de cette période des juges. Les lignes sont interrompues, pointillées, parce qu'il n'y a pas une cohésion entre les tribus. Là, le rectangle qui représente Gédéon, qui unifie seulement 4 tribus, plus tard une 5e. Et les 2 lignes courbées comme ça sont les 2 failles, les 2 grandes failles dans la nation, une idolâtrie grossière, une immoralité grossière. Mais il y a une petite lueur d'espoir, c'est les gens fidèles, une minorité, comme Élimélec, Naomi, Ruth, Boaz. Non, c'est schématique. On a vu, en fait, les gens fidèles dans la tribu de Juda à Bethléem. Mais on pourrait dire qu'ils sont représentatifs. Il y en a d'autres aussi. D'ailleurs, la famille de Samuel, Elkana et Anne, étaient d'une autre tribu. Voilà. Donc là, on a une confédération et l'unité... Attendez, il y a un autre comme ça? Oui. Samuel, il va unifier le pays. Et là, on voit 3 fonctions en haut. Prophète, Samuel est le premier des prophètes professionnels à plein temps. Il y a Moïse avant lui, il y a eu d'autres avant lui, mais pas à plein temps. On a toujours un prêtre, mais au milieu, on n'a pas le roi. En fait, c'est Dieu le roi. Et Samuel le dit. C'est Dieu qui fait fonction de roi. Et pendant cette période de Samuel, il unifie le pays par son enseignement. Et l'idolâtrie disparaît presque d'Israël pendant 120, 150 ans. C'est un très grand homme, Samuel, par son ministère. À la fin de sa vie, ou vers la fin de sa vie, les gens disent, mais tes fils ne sont pas comme toi. Nous, on veut un roi, comme il y en a chez toutes les nations. Il y a un débat, est-ce qu'il fallait qu'il demande un roi? Samuel, ça ne lui a pas plu du tout. En fait, ce que le Seigneur leur avait donné, c'était le schéma à gauche, que c'est Dieu lui-même qui règne sur eux, mais part en donnant direction à un homme, que ce soit un juge, que ce soit comme Samuel, que ce soit plus tard un roi. Mais ce que le peuple demande, c'est simplement une monarchie comme toutes les nations. Ils ont reçu un roi. Ce schéma avec une seule couronne représente donc Saül. Le mot clé, c'est monarchie de Saül. Et donc, ils ont un roi qui est un roi selon le cœur de Dieu, même si cette phrase ne lui est pas appliquée. Par là, je veux dire, c'était un bon roi à ses débuts, mais il a déplu au Seigneur par son manque de repentance. Il a péché, mais ce n'est pas simplement ses péchés, c'est qu'il a refusé, il n'a pas su se repentir, et la communication est bloquée. Et donc là, le peuple a ce qu'ils ont demandé, une monarchie simple. Ce n'est pas une théocratie ici. Dieu ne règne pas par Saül. L'étape d'aujourd'hui, une grande nation, David et Salomon, suite. On a déjà commencé avec la vie de David, et... le schéma, c'est 2 couronnes. Pourquoi ? Ça représente David et Salomon, mais aussi tous les autres, je crois qu'ils sont 19 rois qui ont suivi, descendants de David. Donc on reste sur ce schéma pendant assez longtemps. On aurait pu simplement l'éteindre. Et je consulte mes notes. Oui, la dernière fois, nous avons vu le début de David et quelques épisodes de sa vie avant qu'il soit couronné. On a vu surtout sa soumission à l'autorité de Dieu, et l'application de ça, c'était sa soumission au roi qui était oint par le prophète, et il refusait de faire du mal à Saül qui est roi oint par l'Éternel. Donc il apprend la patience, il a une certaine loyauté même envers Saül, et il a surtout le souci pour l'honneur de Dieu, la plupart du temps. David, il fait des erreurs, bien sûr, hein. Il est humain comme tout le monde, il pêche. Mais là, nous sommes à l'étape 12, une grande nation, et là, ce sera vraiment une grande nation maintenant. Je ferai de toi une grande nation, ce sera une grande nation par sa puissance militaire, par sa prospérité, par la multiplication des gens comme le sable sur le bord de la mer, mais aussi spirituellement. David, un homme selon le cœur de Dieu, et Salomon, un homme comme lui, à ses débuts. David arrive au pouvoir, et comment ça se fait? Parce que, au dernier chapitre de 1 Samuel, on a les cadavres accrochés au mur de Beth-Shean. C'est le cadavre de Saül, de Jonathan, d'Aminadab et de Shama, je crois, les fils de Saül. Et David apprend que les hommes de Jabez en Galaad ont marché toute la nuit pour prendre les cadavres de Saül et de ses fils et pour les amener pour un enterrement décent. Et David les loue. Et il apprend donc la mort de Saül et il pleure. Il pleure la mort de Saül et de Jonathan. Et il leur fait un éloge. Chéri pendant leur vie, ils ne sont pas séparés pendant leur mort. C'est quand même étonnant que David pleure, on va dire, la mort de son ennemi. Mais non, c'est le serviteur de Dieu qui pleure. Saül et Jonathan, aimés et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés à leur mort. Et David consulte l'Éternel, chapitre 2, et l'Éternel dit, « Vas-y, monte, monterai-je vers une des villes de Juda ?»« Monte. » David dit, « Où ?»« Tu iras à Hébron, » dit-il. À Hébron, donc une grande ville dans la tribu de Juda, il est couronné roi, pas d'Israël, mais simplement de Juda. Grand B, roi de Juda. Pendant 7 ans, dit un texte, un autre dit 7 ans et demi, donc ils ont arrondi, David règne sur Juda, que sur Juda. Pourquoi? Parce que le chef de l'armée de Saül, Abner, qui est un grand homme, mais pas spirituellement, un grand homme militaire, peut-être il est grand aussi par la taille, eh bien, il essaye de mettre un fils de Saül sur le trône d'Israël. Il n'y a pas de capitale établie. Il le met sur le trône à Mahanaïm, de l'autre côté du Jourdain. Et donc, c'est écrit que David régna 7 ans à Hébron. Et je lis, Ish-Pochet, fils de Saül, était âgé de 40 ans lorsqu'il devint roi d'Israël, c'est-à-dire tout Israël, mais pas Juda. Et il régna 2 ans. Pourquoi David 7 ans? Et Ish-Pochet 2 ans. Bon, j'interprète un peu. Je crois que ça a pris 5 ans pour que Abner établisse ou impose Ish-Pochet comme roi sur. Il y a un verset qui le laisse entendre sur toutes les tribus du nord. Et en fait, Abner fut une tentative contre le projet de Dieu. Le projet de Dieu, c'est de faire d'Israël une grande nation sur tous les plans. Son homme. Oint par son prophète, c'est David, et tout le monde le sait, et Abner s'y oppose. Donc c'est pas le pharaon qui s'y oppose maintenant, c'est un Israélite. Et pendant 7 ans, il y eut une guerre civile terrible. Il y eut des meurtres à l'étang de Gabaon, 2 Samuel 2, 12 à 16. Je vais lire. Abner, fils de Ner, et les gens d'Ishbochet, fils de Saül, sortirent de Mahanaïm pour marcher sur Gabaon. Joab, fils de Tseruja, Tseruja c'est la sœur de David, ou la demi-sœur, et les gens de David se mirent aussi en marche. Ils se rencontrèrent près de l'étang de Gabaon. Ils s'arrêtèrent les uns en deçà de l'étang, les autres au-delà. Abner dit à Joab, donc Joab c'est le chef d'armée de David, qui deviendra plus tard le général national, le maréchal. Que ces jeunes gens se lèvent, qui se battent devant nous. Joab répondit, qu'ils se lèvent. Ils se levèrent et s'avancèrent en nombre égal, 12 pour Benjamin, c'est-à-dire la maison de Saül, et pour Ish-Pochet, fils de Saül, et 12 des gens de David, chacun saisissant son adversaire par la tête, lui enfonça son épée dans le flanc, et ils tombèrent tous ensemble. Alors, est-ce qu'on appelle ça des meurtres? Peut-être pas, c'est la guerre. Mais ce qui arrive, c'est que les hommes de David commencent à pourchasser les hommes de Saül, et Abner est pourchassé par Asaël, le plus jeune des 3 fils de Tseruja, Et Abner lui dit, mais va-t'en, cherche quelqu'un d'autre. Et donc il court, et Asaël le poursuit toujours, et Abner prend sa lance sans se retourner, et il le tue avec le mauvais côté de la lance. Plus tard, Joab, tellement en colère contre Abner, va l'assassiner. Hein. Donc ce sera un meurtre. Ce sera un meurtre. Et quand Abner est tué par Joab, c'est très frappant quand on lit ce passage que David fait tout son possible pour que tout le monde comprenne que c'est pas lui qui a commandité. Et même il refuse de manger avant la tombée de la nuit, c'est par respect pour le mort, c'est-à-dire pour Abner. C'est une manière habile politiquement d'agir. Comme ça, tous les gens qui sont loyaux à Saül savent que David n'était pas au courant même, ne savait pas. Je crois que j'ai quelques notes là-dessus. Oui, vengeance, numéro 3, c'est vengeance. Je ne sais pas si vous avez le numéro 3 dans vos notes. Vengeance de Joab sur Abner, lorsqu'Abner fit le retour à Hébron, parce qu'Abner est venu offrir le royaume en entier à David. Quand il s'est mis en colère avec Ish-bosheth et qu'il avait accusé quelque chose, eh bien Abner dit, Israël sait que David, que tu as été oint. Donc là, il reconnaît la réalité. Et il offre, je t'offre le royaume, hein, sur un plateau peut-être. Joab apprend qu'Abner a été là, à Hébron. Il dit, mais pourquoi tu l'as laissé partir comme ça? Et puis il envoie un messager à Abner en disant, David veut te voir. C'est un mensonge. Et là, Joab tue Abner. Et David le critique pour ça. Il ne déchoit pas de ses fonctions, mais il le critique. Il montre clairement qu'il n'a pas commandité ce meurtre. Grand C dans vos notes, David est oint roi d'Israël. Il est déjà oint au chapitre 16 de 1 Samuel par le prophète, mais là, il est intronisé et là, il règne pendant 33 ans. Il a en fait 37 ans à ce moment-là. Il a eu 30 ans quand il est accédé au trône à Hébron, sur Juda, et 7 ans plus tard, ou 7 ans et demi plus tard, il règne sur tout Israël. 22 ans après que Samuel ait oint David comme roi à Bethléem. Je lis le chapitre 5, versets 1 et 2. « Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, « Voici, nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. Tu étais le général. L'Éternel t'a dit, « Tu pèteras mon peuple d'Israël, tu seras le chef d'Israël. » C'est un peu en retard, mais 7 années plus tard, ils viennent. Bon, on est d'accord maintenant. Et David, il a besoin d'une capitale. Hébron, c'est une bonne capitale, n'est-ce pas? Non. Parce que la maison de Saül, il y a des gens qui sont toujours contre lui. Plus tard, il y a un homme, Shimei, qui veut le maudire. Ils sont de Benjamin. Et donc, David voit quelle est la ville sur la frontière entre Juda et Benjamin. Eh bien, c'est Jébus. Il fait la conquête de Jébus et le renomme Jérusalem. Et ce texte dit juste après, et David devenait de plus en plus grand et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Remarquez, la présence de Dieu, c'est tout. Mais remarquez aussi, le texte dit, David devenait de plus en plus grand, de plus en plus puissant. Au verset 12 du même chapitre, David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme le roi d'Israël. Donc il est affamé comme roi, et qu'il élevait son royaume. Le royaume de David va être élevé, très puissant, à cause de son peuple d'Israël. Donc c'est pas moi qui suis tellement important, c'est le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est le peuple de Dieu, c'est Dieu qui est important. Et on voit dans la vie de David, pas à tous les coups, mais de façon générale, et dans ces psaumes, c'est Dieu qui est important, c'est pas moi, c'est Dieu. Et lorsque le roi habita dans sa maison, c'est le chapitre 7, verset 1, et que l'Éternel lui eut donné du repos, ce mot repos revient plusieurs fois dans cette affaire. Non, normalement, ça veut dire qu'il n'y a plus de bataille à faire. Enfin, pour l'instant, peut-être qu'il y a eu plus tard. Mais il y a eu cessation parce qu'il a fait la conquête de tout le monde dans l'immédiat. Eh bien, l'Éternel lui eut donné du repos, donc après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, à ce moment-là, il dit, j'aimerais bien construire un temple pour Dieu. Ça, c'est chapitre 7. Et c'est là qu'on arrive maintenant. Numéro 2, David et la grande nation. Vous êtes avec moi, page... Toujours page 1, d'ailleurs. Et on va voir l'alliance. Je mets toujours les quatre mots parce que ces quatre mots sont utilisés dans la Bible. Promesse, je considère, oui, j'aime bien le mot promesse pour ce que Dieu a dit à Abraham. Je te promets, ceci et ça, promesse avec un P majuscule, mais c'est aussi une alliance. Et ici, c'est une alliance que fait David, pardon, je viens de dire une erreur, que fait Dieu envers David, parce que David, en fait, il ne s'engage pas. Pourquoi ? C'est une alliance unilatérale, comme celle faite avec Abraham. Cette alliance est donnée dans une sorte de dialogue. Numéro 1, dialogue entre David et Dieu. Versets 1 et 2, David dit « Ah, j'aimerais bien construire un temple pour mon Dieu. Je te construis une maison. » Il s'agit d'une maison dans ce texte. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on, j'aurais aimé avoir ce texte avec moi, ces papiers avec moi, je n'ai pas réussi à les avoir, mais de mémoire un petit peu, de façon générale, dans le Moyen-Orient, pendant cette période, pas ce siècle précis, mais 200 ans auparavant ou quelques siècles plus tard, dans cette période, on a des textes des rois païens, de petits royaumes ou de grands royaumes au Moyen-Orient et dans les contrées des Chaldéens, des Perses, etc., qui adorent et qui servent des dieux païens. Et on a des textes où le roi dit « Ah, Seigneur, mon Dieu, Eldil » ou quelque chose comme ça, « Je t'ai obéi, je t'ai fait une maison, j'offre des offrandes sur ton autel, donc en conséquence, donne-moi une longue vie, victoire sur mes ennemis, etc. » Ou alors on a des textes où le Dieu s'adresse au roi en disant « Tu m'as construit un temple, en conséquence, je te donne une vie éternelle. » Il y a même un texte qui dit « Tu vas vivre éternellement. » Et longue vie et des richesses et victoire sur tes ennemis. Donc dans ce contexte-là, on pourrait penser que David dit « Ah, je vais construire une maison pour l'éternel. » Et donc, ce sera encore une chose pour laquelle il va me gagner des points. Peut-être. Le texte ne dit pas. Hein. Mais comment est-ce que le Seigneur répond à David ? Au chapitre 7, il lui dit « Mais je t'ai pris derrière les brebis, tu paissais les brebis, et je t'ai mis sur le trône d'Israël. » Donc c'est moi qui ai fait ça. Et est-ce que j'ai demandé à un des chefs de mon peuple de me construire une maison en bois de cèdre ? Non, je ne l'ai jamais fait. En fait, j'ai suivi le peuple errant dans le désert. C'est très touchant quand on considère ces quelques versets. Dieu a Je ne me rappelle pas s'il parle de la nuée ou des colonnes de feu, mais en fait, si on se rappelle, dans Nombre, Dieu guidait son peuple par une colonne de fumée et une colonne de feu, et il était présent aussi dans le tabernacle quand il bougeait. C'est en fait ce peuple nomade qui bougeait, et Dieu bougeait avec eux aussi. Condescendance magnifique de Dieu. Ça me rappelle, bon, j'ouvre une petite parenthèse, Dieu qui vient vers Adam et Ève avant la chute, dans la fraîcheur du soir, il y a un seul verset qui laisse entendre ça, qu'il faisait régulièrement, pour s'entretenir avec eux. Il n'a pas dit, Adam et Ève, venez chez moi au ciel pour me parler. Non, il a dit, je descends vers eux. Condescendance magnifique. Et à la fin de la Bible, Apocalypse chapitre 21 et 22, qu'est-ce qu'on trouve ? Les nouveaux cieux, nouvelles terres. Nous habiterons ressuscités sur la nouvelle terre. Et qu'est-ce que dit le texte ? Le Seigneur et l'agneau viendront tabernaclé parmi nous. C'est magnifique ça. C'est pas nous qui allons vers lui, c'est lui qui vient vers nous. Ça a toujours été. Et donc, il a parlé comme ça dans ce texte, 2 Samuel 7. J'ai rendu ton nom grand. Verset 9. J'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. Vous vous rendez compte? 2 Samuel 7, 9. Les grands qui sont les grands conquérants, Nabuchodonosor, Genghis Khan, Charlemagne, Napoléon, et bien David. Son empire a été plus petit, mais Dieu dit comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à Israël. C'est moi qui ai fait ces choses-là, dit-il. Et tu veux me construire une maison ? C'est pas une mauvaise idée, mais ce sera pas toi. Ce sera ton fils à cause de le sang, etc. Mais ensuite, le verset 11, c'est là où je veux en venir. On va rappeler que les rois païens construisaient des temples pour leurs dieux et marchandaient en conséquence. Eh bien, le verset 11 dit « Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. » Vous voyez sur l'écran, la maison de Dieu, le temple que Dieu, David veut construire, et Dieu dit « Non, tu ne construiras pas une maison. C'est moi qui vais te construire à toi une maison. » Il avait déjà un palais, il ne s'agit pas d'un palais, d'une maison en cèdre ou en pierre, il s'agit d'une dynastie. « Je te construirai une maison, et verset 13, et j'affirmerai pour toujours le trône de son royaume, de ton fils. » Et le verset 16, « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. » Dieu s'engage ici. C'est une alliance dans laquelle Dieu s'engage. Et il ne demande pas à David de s'engager. Il ne met pas des conditions. Donc j'appelle cette alliance inconditionnelle, unilatérale et éternelle. Puisqu'il n'y a pas de conditions qu'on peut enfreindre, Dieu s'engage. Et il dit aussi, même, pour toujours, ton trône sera pour toujours affermi. Maintenant, j'ai un petit peu un problème parce que ce trône, l'occupation de ce trône a été coupée. Et moi, je n'arrive pas encore à m'expliquer comment ça colle entièrement, mais nous savons que c'est Jésus-Christ qui occupera le trône éternellement, voilà, descendant de David. Ça, c'est un débat. Est-ce qu'il occupe actuellement? Donc, le royaume est maintenant. Mais si le royaume est maintenant, il y a des versets qui ne sont pas accomplis, tu vois. Donc, ça, c'est un débat entre chrétiens actuellement. Oui. Donc, un débat entre chrétiens maintenant. Est-ce que le trône de Jésus est uniquement spirituel? Donc, il occupe maintenant et ça suffit. Ou est-ce qu'il y a aussi des promesses matérielles? Donc, moi, je crois qu'il y a des promesses matérielles. Oui. Et donc, on peut dire déjà, mais pas encore. Jésus est roi, mais le royaume n'est pas encore complètement établi. Hébreux chapitre 2 nous donne une réponse à cela. Allez, je vais marquer 2 Samuel 7. Donc, je n'avais pas prévu d'y tourner, mais la question est intéressante. On ne peut pas régler tous les problèmes qu'on a avec ça. Mais nous voyons que tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. L'écrivain cite le psaume 8. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Et donc l'écrivain hébreu, c'est peut-être Paul, quelqu'un d'autre. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qu'il ne lui soit soumis. C'est au présent. Effectivement, Jésus est souverain, il règne. Est-ce que son royaume est accompli? Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. On a un petit paradoxe ici. Rien, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toute chose lui soit soumise. Mais Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. En fait, nous pouvons voir Jésus couronné de gloire et d'honneur en quelque sorte, dans nos cœurs, dans notre pensée, en nous, individuellement et aussi communautairement. Mais ça n'accomplit pas toutes les promesses. Pas encore. Nous ne voyons pas encore. Voilà, je reviens à 2 Samuel 7. Voilà la promesse. David dit, Seigneur, je veux te construire un temple. C'est pas une mauvaise idée, mais ce sera pas toi, ce sera ton fils. Et de toute façon, c'est pas toi qui me fais à moi quelque chose, comme si je te devais quelque chose. C'est moi qui agis pour ton bien envers toi. Je t'ai pris derrière les brebis, j'ai fait de toi, je t'ai donné un nom qui rend comme le nom des gens qui sont sur la terre, et ton trône sera toujours affermi. Donc c'est la grâce, encore une fois, la grâce de Dieu. Et David répond, il a le souffle coupé. Là, toujours pas jeune, voilà, tiens. Ça me surprend. Qui suis-je, Seigneur éternel, pour que tu m'aies fait parvenir où je suis? C'est encore peu de choses à tes yeux, Seigneur éternel. Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir, et tu daignes instruire un homme de ces choses, Seigneur éternel. Et loue Dieu, que tu es donc grand, éternel Dieu, car nul n'est semblable à toi. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Tu as affermi ton peuple d'Israël pour qu'il soit ton peuple à toujours. Et ensuite, il y a des requêtes. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu et tes paroles sont vérité et tu as annoncé cette grâce. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Remarquez ? Et David dit, Seigneur, tu as promis telle chose, donc s'il te plaît, accomplis-le. Mais c'est par confiance qu'il le dit, pas par... Je ne crois pas qu'il doute là, mais il dit, Seigneur, tu as promis, donc fais-le. Veuille donc accomplir, car c'est toi, Seigneur éternel, qui a parlé par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. On peut prendre du temps à décortiquer ces passages, vraiment à approfondir, c'est vraiment merveilleux. Et à sa mort, David dit en quelque sorte, 2 Samuel 23, 5, je serai toujours béni. Voilà un petit peu la phrase. Je suis tellement béni. Je cite, puisqu'il a fait avec moi, et là, corroboration de ce que je vous ai dit sur l'alliance de Dieu faite envers David. David dit, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle. Une alliance éternelle de Samuel 23, 5. En tout point bien réglé. Et donc, c'est une confiance de foi de David, numéro 2. On peut comparer la réaction de David à cette promesse avec la réaction d'Abraham. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Ça, c'est la deuxième occasion où Dieu a promis Abraham. C'est pas Genèse 12, mais Genèse 15. Le deuxième verset à apprendre aux enfants, et qu'un adulte aussi devrait apprendre, après Jean 3, 16, c'est Genèse 15, 6. Genèse 15, 6, la première partie du verset, Dieu lui montra les étoiles, ta descendance sera aussi nombreuse que les étoiles. Et le verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui compta ou imputa à justice. Là, on a le salut par la grâce et par le moyen de la foi. Donc, Genèse 15, 6. Et là, maintenant, après cette alliance donnée à Abraham, vous avez ici un schéma qui n'est pas dans votre support, on a les descendants d'Abraham. En fait, on devrait mettre Abraham, Isaac et Jacob, parce que tous les descendants d'Abraham ne font pas partie des Israélites ni de Isaac. Mais c'est une descendance physique, généalogique, biologique. Nous avons l'habitude de dire on n'est pas chrétien. Ce n'est pas parce que tu es né dans un garage que tu es une voiture. Vous avez entendu ces illustrations, n'est-ce pas? Mais pour le peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament, c'était généalogique. Objection, mais tout le monde qui descend d'Abraham et d'Isaac et Jacob, même dans l'Ancien Testament, n'est pas sauvé. Effectivement. Il y avait des rebelles, il y avait qui n'avaient pas la foi. Et certains venaient d'autres peuples, ils sont intégrés, Ruth, la Moabite. Mais de façon générale, les descendants d'Abraham, Isaac et Jacob étaient le peuple de Dieu. Maintenant, on a une deuxième lignée de David, qui est aussi biologique, physique. Pourquoi c'est important? Parce que celui qui siégera sur le trône de David, promis par alliance, par serment de la part de Dieu lui-même, doit descendre de David. Et en fait, je crois qu'un peu plus tard, on va remarquer que Jésus est cette descendance. Bon, j'attends jusqu'à un peu plus tard. Donc je reviens à ce schéma-là. Promesse, alliance, contrat. Examinons un petit peu quelques aspects de ces trois alliances. La Genèse 12, l'alliance faite avec Abraham. Deutéronome 28, il y a d'autres passages qu'on pourrait prendre. L'alliance à Sinaï. L'alliance faite avec Israël. On l'appelle parfois l'alliance mosaïque, l'alliance de Moïse ou la loi de Moïse. Mais c'est, en fait, c'est l'alliance entre Dieu et Israël. Moïse représente et est le chef. Et 2 Samuel 7 qu'on vient de voir, l'alliance avec David. D'abord, l'alliance avec Abraham est, je crois, inconditionnelle. J'ai eu une discussion avec quelqu'un il y a deux jours. Il m'a dit, ah, mais il y a un verset qui dit, après qu'Abraham a été prêt à offrir son fils, puisque tu as montré ta fidélité, je te choisis, etc. Oui, ça vient par la suite, mais ce n'est pas Genèse 12, ça. Donc, il y a un verset qui parle de la fidélité d'Abraham, mais je ne crois pas que ça suffit pour dire qu'il y a une condition que Abraham devait accomplir pour que l'alliance réussisse. Non, c'est Dieu qui s'engage. D'ailleurs, si vous vous rappelez, Genèse 15, je crois, pas sûr du chapitre, Abraham doit couper des animaux en deux et les séparer. Et c'était une manière de, d'établir une alliance entre deux hommes, et les deux hommes passaient entre les animaux coupés. Ensuite, on les offrait de la viande aux gens, etc. On faisait une fête. Mais c'est pour ainsi dire, si je romps cette promesse que je te fais aujourd'hui entre deux hommes, eh bien qu'on me coupe en deux, quoi, un petit peu comme ça. Eh bien là, je crois que c'est Genèse 15. Vous pouvez regarder. Abraham coupe ses animaux en deux, mais c'est que Dieu, c'est-à-dire la flamme, c'est que la flamme, le chaudron, la lumière qui passe, et Abraham ne passe pas entre les deux morceaux, les deux moitiés. Donc Dieu dit qu'il va faire de Abraham une grande nation et qu'il sera en bénédiction à toutes les familles de la terre. Il ne pose pas de conditions. Petit b, l'alliance avec Moïse, elle est conditionnelle. Deutéronome 28, 1 et 2 et 15, qui sont dans mes notes, je les lis. Écoutez bien les conditionnalités. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Et le verset 15, « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, remarquez, toutes, Paul aurait dit, si on enfreint une seule loi, on enfreint tout. Eh bien, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Et même un verset qui dit, le pays te vomira. Ça m'a toujours impressionné. Petit c, l'alliance avec David maintenant, est-ce qu'elle est conditionnelle ou inconditionnelle? C'est un peu plus compliqué. J'ai déjà dit inconditionnelle, unilatérale, c'est Dieu qui le fait, et éternelle. Je relis le verset 23, pardon, 2 Samuel 23, 5. N'en est-il pas de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance éternelle, en tout point bien réglée et offrant pleine sécurité? C'est la prière de David. Donc, il cite, il dit, et donc on va voir cette alliance comme inconditionnelle. Mais on a un roi 9, 6 à 9. Vous pouvez le trouver si vous voulez, je vais les lire, c'est dans mes notes. Et c'est Dieu qui parle à Salomon. Et Dieu dit, « Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, » donc il ne s'agit pas seulement de Salomon, mais du peuple en entier, « vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements et mes lois que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, » pensez à Salomon à la fin de sa vie, « j'exterminerai Israël. » Ça rappelle ce que nous avons lu dans Deutéronome 28, 15 quand même, hein? J'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Remarquez que c'est pas j'exterminerai tous les Israélites, je les jetterai du pays. Ah, je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom, et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. On dirait que même si l'alliance faite avec David, la promesse est inconditionnelle, là, quand le peuple va se détourner, va devenir idolâtre, il retombe dans la conditionnalité de l'alliance à Sinaï. Hein? Hein? Je continue la lecture, c'est 1 Roi 9, 8. On dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, à qui se sont attachés à d'autres dieux. Là, c'est Dieu qui parle à Salomon avant qu'il se détourne de lui. Hein? C'est un avertissement. Dieu qui a fait sortir leur père du pays d'Égypte parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir sur eux tous ces maux. L'alliance inconditionnelle et éternelle et unilatérale faite avec David et ses descendants est conditionnelle dans son application à chaque génération. C'est comme ça que j'ai résolu un petit peu le problème. Je ne crois pas que ça vient de moi, ça vient d'autres personnes. Mais là, je viens de dire quelque chose d'important. La promesse est inconditionnelle et éternelle. David, tu auras toujours un homme pour régner sur le trône. Mais l'application de ces bénédictions à chaque génération est conditionnelle. Si vous désobéissez, vous serez jeté loin du pays. D'accord. Non, c'est-à-dire. Les bénédictions, oui. S'il y a une génération qui ne marche pas, et il y en a eu, sur les, je crois que c'est 20 rois de Juda, dans le royaume divisé, il y a eu 12 rois qui n'ont pas suivi Dieu, et 8 qui l'ont suivi. Donc, effectivement, c'est suspendu en termes de bénédiction pour cette génération-là, pour ce roi-là, et cette génération-là. Mais ça ne suspend pas la possibilité du roi suivant. Et même à la chute de Jérusalem, que nous allons voir dans 2 mois, je crois, eh bien, il y a une suspension très très longue, mais ça ne suspend pas l'alliance, la promesse donnée à David. Tu auras toujours quelqu'un qui règne. Ça n'est pas la promesse, mais l'application pendant des siècles et des siècles, des millénaires, est suspendue.
Quand on lisait la philologie, la philologie,
exact.
Donc, il y a bien une très longue suspension.
Très longue suspension. On va revenir à ce verset.
Qui
n'allume pas, oui. Voilà. Détruit de nouveau, oui.
C'est lui, le véritable temple.
Oui.
Voilà, donc si on veut, il peut y avoir
aussi... En fait, une tension entre une compréhension...
Nous, on voit,
oui. J'allais dire entre une compréhension des choses matérielles et l'importance spirituelle. Et en fait, le spirituel est plus important que le matériel. Tout le monde est d'accord sur ça, ce qui nie pas l'accomplissement matériel, forcément. Oui. Pour l'appréciation du Seigneur,
voilà.
Ce n'est pas long.
C'est pas long.
Mais pour nous, c'est long.
Oui.
Je ne crois pas que ce verset peut vouloir dire, comme certains veulent, que quand on trouve dans la Bible des années, ça peut être des jours. Quand on trouve jours, ça peut être des années. Non. Non, je ne crois pas que ce soit. Mais ça veut dire. Non, c'est pas ce que. C'est-à-dire l'appréciation du Seigneur, il ne trouve pas le temps long. Voilà. C'est-à-dire comme ça. Hein. Voilà. On va laisser parler. D'accord. Alors, toujours la page 1, ça me surprend que vous en donnez toujours la page 1. L'alliance avec David est pour toujours. Alors, j'ai les erreurs dans mes notes. L'alliance avec David est pour toujours. Dans les évangiles, on trouve Jésus, fils de David. Et donc là, je vous cite Matthieu 12, 22 à 23, si vous voulez noter les références. Alors on lui amena à Jésus un démoniaque aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Matthieu 12, 22. Toute la foule étonnée disait, n'est-ce point là le fils de David? Ce qu'il voulait dire. Ne serait-ce pas le Messie? Un fils de David, c'est-à-dire évidemment descendant de David, et donc le Messie devait être un descendant de David. Matthieu 21, 8. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, c'est l'entrée triomphale. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui le suivaient, suivaient Jésus, criaient Hosanna au fils de David. Donc ils acclamaient le Messie, ceux qui croyaient être le Messie. Ils avaient raison, mais il y avait confusion dans la foule peut-être. Et Marc 12, 35, Jésus continuant à enseigner dans le temple, dit, comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David? David lui-même, dit Jésus, animé par l'Esprit Saint, donc c'est inspiré, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Et ils ne pouvaient pas répondre. parce que le descendant de David des années plus tard est en fait divin. Donc il est le Seigneur. Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Donc on peut voir aussi Apocalypse 22:16, moi Jésus, je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile du matin. L'alliance avec David est pour toujours accomplie en Jésus. Donc elle est, l'alliance est inconditionnelle et éternelle. Et unilatérale, ça vient seulement de Dieu. Mais la bénédiction donnée à chaque génération, et ce sera important, la prochaine fois, donc en février, on se reverra, on va étudier donc ce qui arrive par la suite. J'ai marqué dans les notes une brève rétrospective sur notre progression jusqu'ici, mais on a déjà fait ça au début. Simplement noter, voilà, ce genre de schéma est différent des autres, pour expliquer un petit peu. Là, c'est en dessous de la ligne, parce qu'ils ne sont pas dans le pays promis, ils sont en Égypte. Ils sortent du pays, et normalement, quand il y a un carré, ils sont dans un pays. Donc, quand c'est le cercle, ils n'occupent pas un pays, ils sont errants dans le désert. Et donc, on a ici période des juges, Samuel, Saül, et étape 12, c'est David et Salomon. David et Salomon. Donc, on ne va pas s'attarder là-dessus. Eh oui, donc, et le but final, c'est quoi ? La gloire de Dieu. Donc, ça, c'est le projet ultime, mais le projet intermédiaire dans l'histoire, c'est une grande nation. Donc, on peut voir ici comme une grande nation, et sous David et Salomon, ils deviennent une grande nation, but intermédiaire, mais ce projet-là aura des problèmes. But ultime, bien sûr, si je mets but ultime, ce sera nombre 14-21, la gloire de Dieu remplira toute la terre. Dans la pratique maintenant avec David sur le trône, David, homme selon le cœur de Dieu, on pourrait revenir à ce schéma, je vais tenter de le faire, c'est pas trop loin. Ici, par exemple, à gauche, Dieu, roi, règne sur le peuple, par le cœur du roi. Un cœur, il est selon le cœur de Dieu. C'est ce schéma-là à gauche que nous avons maintenant avec David. Et donc, c'est une théocratie, non pas comme l'Iran avec les ayatollahs. C'est pas une théocratie directe, ou on veut dire pure, mais une vraie théocratie. Une vraie théocratie, on est où là ? J'avance. Je risque de planter avec ce... Ensuite, oui. On a une grande nation. Donc ce schéma-là, vous l'avez. Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Et enfin, avec David, c'est accompli. Ça a pris 1000 ans entre la promesse et l'accomplissement. 2 Samuel 7:9, je rappelle, je t'ai donné un nom comme le nom des grands qui sont sur la terre. David, c'est un très grand roi. C'est le plus grand roi d'Israël de tous les temps, sauf Jésus. Et c'est un très grand personnage de l'Ancien Testament. Matthieu 1:1 dit Jésus, fils d'Abraham, fils de David. Voilà le sous-titre de Jésus. Donc Abraham, David. Dans les archives d'Artaxerxès, roi de Perse, on lit dans Esdras 4:20, il y eut à Jérusalem des rois puissants. Maître de tout le pays de l'autre côté du fleuve, de l'Orient, du fleuve Euphrate, et auquel on payait tribut, impôts et droits de passage. Donc, dans les archives du roi de Perse, on a le registre de ces puissants rois israéliens. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec cette grande nation ? Elle n'est pas vaste comme l'empire de Genghis Khan ou de Cyrus le Perse, mais elle est puissante. Dans la région. Elle est, cette nation est une nation spirituelle. Peut-être pas à 100%, mais beaucoup de gens suivent la spiritualité du roi David. C'est qui a fait cette grande nation ? C'est Dieu, bien sûr. On va examiner un petit peu le jeu entre ce que fait Dieu et ce que font les hommes. C'est Dieu qui a pris David derrière les brebis. Qui a, lui a donné un nom comme le grand sur la terre. Mais David n'y est pas pour rien. C'est lui qui a pris les armes, qui a dirigé les armées pour conquérir les nations autour. C'est lui qui a voulu construire un temple, il a pas, on ne lui a pas permis, mais le texte nous apprend comment il a organisé, il a amassé du matériel pour son fils Salomon. David donna, donc c'est Chapitre 28, verset 11, 2 Samuel 28, 11, David donna à Salomon le modèle, il a peut-être fait le dessin lui-même, le plan touchant les parvis, les chambres pour les trésors de la maison de Dieu, les classes des sacrificateurs, des lévites, c'est un vrai administrateur. Et il a inauguré, lui, la musique, pas du temple, mais du tabernacle, reproduit au temple après, les chantres et tout ça. C'est lui qui, peut-être qu'il a dirigé la chorale, c'était un homme habile, c'est un musicien. Est-ce que la Bible souligne le divin ou l'humain? La réponse est oui. Les deux. Le salut est par la grâce. Et on voit la grâce de Dieu d'une manière pratique dans l'Ancien Testament. Hein? Maintes et maintes fois. Mais on voit que l'obéissance de l'homme, de la femme, est tellement importante. Tellement importante. Donc, les deux. David a aussi organisé la nation, 2 Samuel 8, 16, 17 et 18. Écoutez ce genre de texte qui revient plusieurs fois dans le livre de Samuel et des rois. Joab, fils de Tseruja, la demi-sœur de David, commandait l'armée. Josaphat, fils d'Achilud, était archiviste. C'est important, l'archiviste. C'est un peu l'œuvre. La Bible parle d'archiviste, d'archive. Tsadok, fils d'Achitub, et Achimelech, fils d'Abiathar, étaient sacrificateurs. C'est donc, il y avait deux souverains sacrificateurs, deux papes. Seraja était secrétaire. Qu'est-ce que vient faire ça là? C'est important. Nous laissons entendre que David a bien organisé la nation. Benaja, fils de Jehojada, un homme important lui, était chef des Kirétiens et des Pélétiens. C'était des hommes de Crète et de Philistie. Et les fils de David étaient ministres d'État. C'était un administrateur. C'était un vrai chef parmi les hommes, habile dans la politique et la psychologie humaine. Il n'aurait pas fait tant d'erreurs en tant que président de la République. Il a un cœur pour Dieu et pour les hommes. C'est un administrateur habile. Dieu se sert des habiletés des hommes et des femmes. Numéro 3, les échantillons de la vie de David après qu'il devient roi. Qu'est-ce qui fait de ce pécheur un homme selon le cœur de Dieu? Ça c'est après. Non, je ne vais pas faire cette remarque, je ne suis pas sûr. David danse comme un fou, 2 Samuel 6. Voilà. Le début du chapitre raconte comment David voulait faire monter à Jérusalem l'arche et qu'il s'y est mal pris. C'est très clair quand on lit entre les lignes du texte. Il n'a pas consulté ceux qui connaissaient le texte biblique pour voir comment faire. Il a fait n'importe comment. Et un homme en est mort. Et ce qui est un petit peu étonnant, mais frappant surtout, quand cet homme Uzza a touché l'arche, il est mort, et c'est écrit, David fut irrité. On peut être en colère avec Dieu, il ne faut pas chercher à être en colère. J'ai un ami qui dit, ouais, c'est bien d'être en colère avec Dieu. Non, ce n'est pas bien, mais on peut, si ça vient, irrité. Et le verset suivant, David eut peur de l'Éternel. Oh, maintes textes disent, il faut craindre l'Éternel, c'est-à-dire l'honorer, le respecter. Là, ce n'est pas craindre, c'est peur. Ça peut nous arriver. Le témoignage d'un missionnaire américain au Bangladesh qui a subi la guerre entre le Bangladesh et le Pakistan, il ne savait pas s'il allait prendre une balle. Il nous a dit plus tard, je ne savais pas à quel moment j'allais paraître devant le Seigneur et j'avais peur. Ah, ça c'est l'honnêteté qu'il nous faut parfois. J'avais peur de ne pas paraître devant le Seigneur. Donc il a dû régler les choses dans sa vie peut-être. Mais là, David a peur parce que... Et donc, on peut lire entre les lignes plus tard, il consulte comment faire, et il fait monter sur les épaules les Lévites, comme le texte le précise. Et à ce moment-là, il enlève ses habits royaux, il ne se met pas tout nu, hein, mais il a une tunique, une simple tunique de lin, et il danse, et il saute, et il danse devant le Seigneur. Il se réjouit tellement, et il se donne à cœur joie. Il y a une princesse qui regarde de la fenêtre, vous savez qui c'est, hein? Mical, fille de Saül, qui le méprise. Ah, moi je sais comment un roi devrait se comporter, c'est pas comme ça. Hein? Et puis, Elle lui adresse la parole. Quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs. Ceux qui étudient l'hébreu me disent, il y avait une connotation sexuelle. Comme se découvrirait un homme de rien? Il répond, c'est devant l'Éternel qui m'a choisi de préférence à ton père d'ailleurs, et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple d'Israël, sur Israël. C'est devant l'Éternel que j'ai dansé. Je veux paraître encore plus vil que cela. Qu'est-ce que nous apprenons à cet épisode? Humble, il ne se prend pas pour... Oui, il est prêt à s'assiviler. Eh bien, prononcez-le. C'est difficile à dire. Il est prêt pour se rendre ridicule pour le Seigneur. Est-ce que ça vous dit quelque chose quand je fais comme ça, comme ceci? Regardez. C'est qui ça? Vous ne connaissez pas? Il y a à peu près 8 mois, au Mondial, c'était le président Macron qui se réjouissait d'un but français, là. Et puis vous avez remarqué des jeunes qui jouent aux jeux de vidéo, peut-être vous le faites aussi. On s'engage entièrement. David est comme ça. Adorer Dieu, il s'engage. Si on me ridicule, il ridiculise. Il y avait un chrétien en Angleterre qui est allé à Epsom pour les courses de chevaux, où tout le monde s'habille tellement bien, les riches, etc., et portait un chapeau. Non, il portait quelque chose qui disait fou de Dieu. Et les gens regardaient fou de Dieu, ils se moquaient de lui. Moi, je ne porterais pas ça. Ils se moquaient de lui. Et derrière, quand il passait, il disait, et vous êtes quel genre de fou, vous? Exact, oui, ça marche mieux en anglais. Un amour profond et sincère pour Dieu. Grand B, Benjamin furieux. Là, c'est après la rébellion d'Absalom. David a commis un adultère et un de ses fils a commis un viol au sein de sa famille avec une demi-sœur. David a fait tuer le mari de Bathsheba, Uri, et bien Absalom a tué Amnon, celui qui a commis ce viol. On a les conséquences dans la vie de David. C'est important de se rappeler de ça. Le péché de David, c'est pas un seul péché, c'est plusieurs péchés. Et Absalom, il se déclare roi à Hébron. Il est roi à Hébron. Et donc il va attaquer Jérusalem. Et David, dans sa sagesse, et consulte le sage aussi, il fuit la ville pour ne pas se battre contre son fils. Il est pieds nus, je crois, je me rappelle bien. Et donc, il y a des gens qui sont pour lui, des gens, il envoie quelques espions à Jérusalem et tout. Quand il se dirige vers le Jourdain, il y a un Benjamite du côté de Saül, Shimei, qui est en haut du sentier et qui commence à jeter des pierres de la terre, des mottes de terre, et à crier « Bien fait pour toi, David, l'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône. Et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils. Te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. » Il l'accable des morts de Saül et de ses fils, et même de Jonathan, son ami. Le sang de la maison de Saül, c'était pas vrai. Ça vous arrive d'être accusé à tort? Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut se défendre. On veut se défendre. Peut-être parfois il faut se défendre. Une fois, l'apôtre Paul a dit, non, on ne fait pas ça à un citoyen romain. Et à côté de lui, il y a Abishai, son neveu, un des fils, des 3 fils de Tsiruja. Moi, j'appelle Abishai le samouraï d'Israël. Pourquoi? Il est toujours prêt à trancher la tête à quelqu'un. J'ai lu un roman sur Japon il y a 4 ou 5 siècles, appelé Shogun. Et dans une scène, là, on a le seigneur local, parle tout, et puis quelques soldats, c'est-à-dire des samouraïs, et quelques serfs, un paysan, et un paysan qui dit quelque chose de travers, Et sans même demander la permission, le samouraï dégaine son épée tranchante, lui tranche la tête en un seul coup, nettoie son épée, le repose et prend position. C'était son devoir. Prêt à trancher la tête à quelqu'un, à n'importe quand. Et Abishai dit, mais je lui coupe la tête à ce chien mort. Il est déjà mort. Sire. Pourquoi ce chien mort maudit-il le roi mon Seigneur? Laisse-moi juste prêt à lui couper la tête. Et David dit non. Non. Est-ce que je vais trouver? Non, je ne vais pas pouvoir trouver rapidement, donc je passe. Je cite de mémoire. David dit, non, vous êtes trop fort pour moi, vos fils de Tseréja. S'il me maudit, c'est que Dieu lui a dit, maudit David. Intéressant ça. Dieu lui permet de le faire, donc je ne m'y oppose pas. Si Dieu voulait qu'il ne me maudisse pas, il aurait arrêté. C'est un petit peu la perspective de David. C'est un peu difficile à cerner ça. Et ensuite il dit, le Seigneur verra peut-être mon affliction et me fera grâce par la suite. Il croit à la grâce de Dieu. Pourquoi? Il a déjà vu la grâce de Dieu dans sa vie. Mais il ne présume pas. Et en fait, ce mot affliction, il est possible que ce soit un autre texte qu'il faut y mettre. Le Seigneur verra mon iniquité et il me fera grâce par la suite. Parce que son péché de meurtre contre Uri et d'avoir pris la femme d'un autre Bathsheba, il était pardonné. Nathan l'a dit. Mais si vous regardez 2 Samuel chapitre 12, Nathan donne la parole de Dieu, il dit, mais il y aura des conséquences dans ta famille et dans ta vie. Et David le savait. Le Seigneur regardera peut-être mon iniquité plutôt qu'affliction. Les deux, ça marche. Mais quand il est au plus bas, il ne se permet pas de réagir égoïstement. Donc, qu'est-ce que révèle cet incident de caractère de David? Vous pouvez mentionner plusieurs choses. J'ai pris trop de temps, je crois, donc je vais aller direct au but. David, ce que je vais vous dire est important pour notre attitude et nous pouvons peut-être comprendre les autres qui sont dans le malheur autour de nous. En conséquence, sans les juger, David est arrivé au point où il reconnaît qu'il ne mérite pas une vie paisible. Ça ne vient pas de moi, un autre enseignant. Quand j'ai compris ça, j'étais vraiment frappé. Est-ce que je mérite toutes les bonnes choses que le Seigneur me donne? Non. Non. Il y avait un conseil d'église dans une église presbytérienne en Écosse, où vit mon grand-père. Et les anciens se chamaillaient. Il y en a un qui dit, mais je demande mes droits. Et l'autre a dit, mais frère, si tu avais tes droits, tu serais en enfer. Tu ne veux pas demander ça. Hein? Oui, nous sommes tous des condamnés, mais pardonnés, graciés. Donc David est arrivé au point, il reconnaît qu'il ne mérite pas une vie paisible. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à prendre là. Hein? Grand C, pas d'offrande, bon marché pour Dieu. 2 Samuel 24, il y a eu péché en Israël. Et le roi et le peuple ont péché, et le Seigneur envoie 3 jours de peste qui tue énormément de gens. David, il prie, Seigneur, s'il te plaît, arrête la peste. Et donc le Seigneur lui dit d'aller offrir une offrande dans un certain lieu sur l'air à battre l'orge, je crois, d'un nommé Aravna. Il a un autre nom aussi, il s'appelle Aravna. Et donc David arrive avec ses retenues, il dit, je voudrais offrir un sacrifice ici. Aravna dit, ben, voici mes bœufs, voici mon char, prends-les, Seigneur, voilà, le bois. Il dit, non, je n'accepte pas, il faut que je les paye. Et je n'offrirai pas à Dieu ce qui ne me coûte rien. Donc, ce n'est pas une offrande bon marché, une offrande au rabais. Ça révèle son respect pour Dieu, son très grand respect pour Dieu, ses priorités. Dieu mérite le meilleur de nous-mêmes. Et pas comme certains qui arrivent au pouvoir et qui se croient tout permis, ou qui acceptent que les autres... Vous savez que c'est qu'aux riches qu'on donne de beaux cadeaux. Hein. On ne donne pas de beaux cadeaux aux pauvres. On a des exemples dans la politique française, mais aussi américaine, des gens qui ont reçu des présents comme ça. Mais les deux épisodes suivants révèlent particulièrement pourquoi David était un homme selon le cœur de Dieu. Dans 2 Samuel 5, on a un petit texte qui nous parle que les Philistins, ils apprennent que David est venu au trône d'Israël et ils attaquent tout de suite. David consulte l'Éternel. Dois-je monter pour faire face? Il dit, oui, vas-y, tu montes contre eux. Et il fait une grande bataille, il fait une grande victoire. Quelques semaines ou quelques mois plus tard, je ne sais pas exactement, de nouveau les Philistins attaquent. Il a eu du succès déjà. Quand on a du succès, on se croit habile. Hein? Ah ben non, il consulte de nouveau. Seigneur, dois-je y aller? Oui, vas-y. Et puis il donne des instructions. Donc il remporte une victoire, mais la deuxième fois, il consulte Dieu de nouveau. Normalement, et ça je peux en témoigner, nous dépendons davantage du Seigneur quand nous sommes en difficulté et nous nous croyons faibles. Ah, j'ai eu des prières dans ma vie, Seigneur, presque en pleurs, une fois vraiment en pleurs, aide-moi. Et j'étais j'étais en mission et j'avais une responsabilité pour 60 personnes et j'étais face à une rébellion de leur part, qui était injuste. C'était pas de ma faute, hein, mais ils étaient en rébellion. Et j'ai prié, Seigneur, aide-moi. Mais quand on se croit fort, on dépend moins. Hein, ça arrive. Hein. Rappelons-nous que sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus à ses disciples, Jean 15, 5. Que Paul a écrit, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. De Corinthiens 12, 10. Je puis tout par celui qui me fortifie, Philippiens 4, 13. Et en fait, ce que Jésus enseignait, et ce que Paul enseignait aussi, David le vivait déjà. Pour moi, David, c'est presque un chrétien de la Nouvelle Alliance qui vit dans l'Ancienne, sous certains aspects. C'est à approfondir peut-être. Mais surtout, la meilleure façon de démontrer le contraste entre Saül et David et d'apprendre comment c'est pour avoir un cœur selon Dieu, c'est de voir comment ils réagissent quand ils ont péché et sont découverts par le péché. Tous les deux sont choisis par Dieu. Tous les deux sont oints par le même prophète, Samuel. Ils sont oints de l'Esprit. L'Esprit, Saint-Esprit, vient sur eux. C'est inhabituel dans cette alliance. Ils ont du succès. Il y a un certain passage dans chapitre 14 de 1 Samuel où ça décrit les succès de Saül. Et ils sont tous les deux tombés dans des péchés très grave. Maintenant, en tant qu'être humain, nous examinerions le péché de Saül et le péché de David. On dirait, mais les péchés de David sont plus grands que les péchés de Saül. Nous n'avons pas la bonne perspective. Tous les deux ont méprisé la parole de Dieu. On peut trouver ce texte. Mépriser la parole de Dieu, c'est mépriser Dieu. Et Saül n'a pas pu vraiment se repentir. La repentance n'est pas donnée à tout le monde. Mais on n'est pas impuissant devant ça. Il faut choisir d'admettre son péché. Saül gardait sa culpabilité parce qu'il refusait de se repentir. J'ai bien refusé. Il aurait pu. Il a refusé. L'incrédulité, c'est le refus de croire. Et la désobéissance, c'est le refus d'obéir. Là, c'est le refus de se repentir. Je ne sais pas comment on appelle ça. Résultat dans sa vie, on peut examiner les textes, l'amertume. La déprime, même un mauvais esprit qui vient le troubler, la colère, la violence contre David, même contre son fils Jonathan, tentative de meurtre. Et l'attitude de David et de Saül, on peut le résumer dans 1 Jean 1, 8. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Ça c'est Saül, tout craché. Et la vérité n'est point en nous. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, David, Saül plutôt, à un certain moment, m'a dit « D'accord, j'ai péché, mais reviens, honore-moi devant le peuple. » Ce n'est pas une admission, ça. Mais David savait ce qu'il fallait faire. Dans 2 Samuel, chapitre 12, verset je ne sais plus lequel, Nathan dit « Tu es l'homme qui a pris la brebis du pauvre, etc. » Le texte dit « David dit « J'ai péché contre l'Éternel. » Et on ne trouve rien d'autre. Point à la ligne. Hein? Et là, c'est le verset suivant dans 1 Jean. David, c'est 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et à étudier les psaumes 51, 38 et 32, les trois psaumes de David qui parlent de la bénédiction de celui qui est pardonné. Et Paul cite, je crois que c'est le psaume 32 qui cite dans Romains 4, la bénédiction de celui à qui le Seigneur n'impute pas le péché. Je crois que c'est ça. Hein. Donc que révèle cet incident du caractère de David? Je vous laisse écrire vous-même en vos propres termes. Au chapitre 8, nous avons un texte qui nous parle de victoire de David, qui fait la défaite des Philistins, de Moab, de Zoba, l'occupation de Damas, des Ammonites, des Édomites, des Syriens. Tous ces peuples qui avaient opprimé les Israélites depuis le temps des juges, de Samuel et de Saül. David en fait la conquête, il s'établit comme maître du Moyen-Orient. Certains, il occupe. Il intègre Israël et d'autres, il les soumet à des impositions et à des tribus comme la Syrie. Et donc à gauche, on a quelqu'un à dessiner ces cartes, ce n'est pas moi qui ai calculé tout ça. Donc le royaume du temps de Saül et le royaume du temps de David. C'est David qui a conquis tout ça et Salomon a régné sur tout ça. L'Éternel protégeait David partout où il allait. C'est deux fois dans 2 Samuel 8, le verset 6 et le verset 14 aussi. On a cette phrase. Et je veux déjà citer le gouvernement de David. On a déjà lu le texte, d'ailleurs. Joab commandait l'armée, Josaphat archiviste, deux souverains sacrificateurs, Tzadok et Achimélec, et les fils de David, ministres d'État, etc. C'est un âge d'or pour Israël. De Samuel 8, 15, David régnait sur Israël et faisait droit et justice à tout son peuple. Le peuple qui a droit et justice est béni. Hein? Donc voilà, c'est un âge d'or. C'est vraiment, qu'est-ce qu'on appelle, le zénith, hein, de la nation d'Israël. Je ferai de toi une grande nation. C'est une grande nation. Militairement, en puissance. Ils ont du repos maintenant. Salomon n'a pas fait de guerre. Il y avait quelques petites batailles, quelques escarmouches, mais il n'a pas eu des guerres à faire. Chacun vivait sous son... sous sa vigne et sous son figuier, voilà. Chacun avait son pavillon et un garage. C'était un petit peu comme ça. Et 1 roi 4, Salomon dominait encore sur tous les royaumes, depuis le fleuve, normalement c'est le fleuve d'Euphrate, jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Donc les autres peuples apportaient des présents. Ils furent assujettis à Salomon tout le temps de sa vie. Il dominait sur tout le pays, de l'autre côté du fleuve. Depuis Tifsac jusqu'à Gaza. Je crois que dans vos notes, vous avez sur ces cartes Tifsac et Gaza. Je ne l'ai pas mis sur l'écran. Là. Comment se fait-il que l'écrivain a dit de l'autre côté du fleuve? L'autre côté, ce n'est pas... Je veux dire, ce n'est pas mon truc. Ah. L'autre côté du fleuve, ce n'est pas juste en haut, là, l'Euphrate. Donc l'autre côté, ce serait la Syrie, l'Irak. Ben non, parce que c'est ici que David et Salomon dominaient. Salomon dominait. Comment comprendre cette phrase de l'autre côté du fleuve? La réponse est simple. Hein. C'est quand on y pense. C'est que le créateur, celui qui a écrit ce texte, était de l'autre côté du fleuve. Vous voyez ce que je veux dire? Et il me semble que ce serait un des exilés à Babylone, ou ailleurs, de ce côté-là. Donc quand il écrivait ce texte, il écrivait pour des juifs en exil, et il dit l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire... à l'Occident du fleuve. Voilà, petit truc pour expliquer une phrase. Mais cette grande nation, grande relativement en territoire, en puissance militaire, en prospérité, c'est pas que Salomon qui avait une grande richesse, David aussi, hein, de l'or, etc. Et une grande spiritualité. Ils adoraient le vrai Dieu, de la manière dont le vrai Dieu avait demandé être adoré. C'est une grande nation. Je ferai de toi une grande nation et en toi toutes les familles de la terre seront bénies. qu'est-ce que Dieu veut faire de cette grande nation? Il veut bénir toutes les autres nations de la terre. On fait un break avant la prochaine séance.